Panorama économique.
Mesdames, Messieurs, Panorama économique vous retrouve encore ce samedi et vous avez pris le goût de suivre chaque week-end donc cette émission sur la fréquence de la paix. Merci et bienvenue dans ce magazine économique dans lequel nous commentons l'actualité économique de la semaine et c'est toujours avec un invité. Mais d'abord le sommaire. Voté mardi à l'Assemblée nationale, le budget 2014 est revu à la hausse avec une amélioration de près de 680 millions de francs congolais par rapport au budget initial présenté par le gouvernement. Et puis à Ituri, les communautés du bloc 1 Graben-Albertine réclament 375 000 dollars américains, une somme que doit débourser la compagnie pétrolière Oil of Congo pour financer les projets d'intérêt communautaire. 25 millions de dollars américains pour construire la route Kananga-Kalambambouji au Kasaï occidental. Ces travaux financés et exécutés par l'entreprise chinoise Grexet permettront les transactions commerciales entre les provinces de Lunda Nord et de la République d'Angola et celles du Kasaï occidental. Dans ce magazine économique, nous aborderons également d'autres faits ayant marqué la semaine dans le pays. Alors, deux voix pour vous présenter cette émission. Paul Matendo, qui nous revient après ses vacances. Et François Kadima. Bonjour, Paul.
Bonjour, François.
En tout cas, c'était bien tes vacances.
Très bien, oui.
Nous allons commenter l'actualité économique de la semaine avec Al Kitenge. C'est notre invité, il est analyste économique. Bonjour, monsieur Al.
Bonjour.
Bienvenue dans Panorama économique.
Bonne année à vous et à tout le monde.
Merci beaucoup.
Panorama économique, le dossier.
Voilà, nous allons commencer le premier dossier par le budget de l'État, exercice 2014, voté mardi par la Chambre basse du Parlement.
Il est de 8 292,4 milliards de francs congolais, soit près de 8,9 milliards de dollars américains. Il s'observe une amélioration de près de 680 millions de francs congolais par rapport au budget initial présenté par le gouvernement. Cette augmentation est réalisée et présentée dans le rapport de l'examen approfondi du projet de loi des finances par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Jacques-Yves Molima.
En croit le rapport de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, le réaménagement de ce budget exercice 2014 provient des recettes des douanes et assises, des impôts, des recettes non fiscales et de la DGRAD. Ces économies ainsi dégagées sont affectées en ce qui concerne les dépenses d'intervention économique, sociale, culturelle et scientifique aux secteurs vitaux, notamment l'agriculture, le développement rural, l'enseignement supérieur et universitaire, les affaires sociales, le genre et la santé. Ainsi, le budget de l'enseignement supérieur et universitaire, par exemple, passe de 3,526,820,000 francs congolais à 5,597,420,000 francs congolais. Celui de l'agriculture passe de 1,149,583,000 à 4,493,525,000 francs congolais. Le budget de santé, hôpitaux, passe de 4,823,512,000 francs congolais à 6,823,512,000 francs congolais. Quant aux dépenses de fonctionnement, ces augmentations sont allées renforcer, entre autres, les secteurs de la défense et de sécurité, de l'éducation et la CENI. Le réaménagement interne opéré est de l'ordre de 8,357,193,760 francs congolais. Mais quant à la rubrique dépenses rémunération, le député national Franck Diongo pense qu'il y a des anomalies.
Les dépenses de rémunération de l'armée est un accroissement de 0,4%. Alors, si les minimums qu'on paye à nos militaires, on n'ajoute rien, donc l'ANR, la police, l'armée n'ont pas connu d'augmentation telle que les rapports ont proposé.
Cependant, selon Emery Okundji, il y a lieu de faire mieux si on mettait un terme au coulage de recettes.
Tout le monde reconnaît, le gouvernement reconnaît qu'il y a coulage. Le chef de l'État lui-même a reconnu qu'il y a coulage. Mais tout le monde s'est plaint. Alors qui va agir? Il faut maintenant agir. Et donc, il faut qu'il y ait un contrôle parlementaire sérieux.
Notons que ce budget ainsi voté est envoyé pour une seconde lecture au Sénat.
Voilà qui est bien dit, Jacques-Yves Molima. Je rappelle que nous sommes dans Panorama économique et notre invité, c'est Al Kitenge. Il est analyste économique. Al Kitenge, vous avez suivi avec nous ce reportage sur le budget qui a été voté à l'Assemblée nationale. Il s'observe une amélioration de près de 680 millions de francs congolais. Cette somme s'ajoute sur le budget initial présenté par le gouvernement après un examen approfondi par la commission ECOFIN. Est-ce que cela peut avoir une incidence donc sur les vécus quotidiens de la population?
Merci beaucoup François. Je suis bien entendu analyste économique, mais je suis surtout stratège. Et c'est surtout le stratège qui va un petit peu parler en ce moment. Vous savez, lorsque vous regardez les chiffres tels qu'on les présente aujourd'hui, au relatif, il y a une amélioration. Mais il faut quand même vous dire que c'est plus ou moins le même budget que le Congo-Brazzaville. Pour simplement 4 millions de personnes, à tout casser. Et nous, on est 70 millions de personnes. Regardez le défi par tête d'habitant pour donner le service public. Ça pose toute la question de la réinvention du cadre financier de la République démocratique du Congo. Je le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans votre émission, dans ces conditions, le pays est ingérable. Ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, en l'occurrence toute la difficulté administrative, toute la perturbation politique et militaire que nous avons, ce ne sont que des conséquences de cette impossibilité technique. Il faut dire que le Congo, s'il doit être considéré correctement et être en mesure d'offrir des services publics et une économie viable à sa population, il est important qu'on bondisse. On ne peut pas croître de manière normale et ces chiffres démontrent clairement que l'État congolais n'a pas les moyens pour prendre en charge ses citoyens partout où ils sont.
Mais il y a des chiffres retrouvés dans les douanes accises qui s'ajoutent pour augmenter ce budget. Vous ne pensez pas que ça peut aider à améliorer quand même la situation ?
Au relatif, ça veut dire qu'on a progressé. Mais en absolu, c'est encore insignifiant. La tâche de Kabila, la tâche de Matata est très très difficile. On ne peut pas avoir 20 fois moins de moyens que le Congo-Brazzaville par tête d'habitants et avoir un territoire 20 fois plus grand. Ça veut dire qu'en fait, le défi est 400 fois beaucoup plus grand. C'est de l'arithmétique. Tout le monde devrait être en mesure de comprendre cela. Il est important que les députés qui bougent dans tous les sens deviennent un peu plus responsables. Je pensais et j'espérais beaucoup que les concertations nationales que nous avons eues récemment auraient pu remettre cette question de la viabilité de l'État au centre. Il ne faut pas regarder les conséquences, il faut regarder les causes. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas la capacité d'administrer le territoire, parce que nous n'en avons pas les moyens. C'est de l'arithmétique de base.
À quoi cela est lié au budget ?
Non, c'est lié au simple fait que, en absolu, l'activité économique sur l'étendue de la République démocratique du Congo est minime. Il est donc nécessaire de trouver des mécanismes pour accélérer et intensifier l'économie congolaise. Je vous donne des illustrations simples. Le Congo-Brazzaville et l'Angola, ils ont bondi sur le pétrole. Il faudrait que nous choisissions avec quoi nous allons bondir pour être en mesure de nous mettre sur un premier palier qui nous permette d'évoluer. Aujourd'hui, la situation, c'est de déjà administrer l'État congolais. Je donne des exemples encore simples. L'espérance de vie dans notre pays est de 48 ans. Nous perdons près de 15% de nos enfants avant l'âge de 5 ans. Il y a donc des défis majeurs qui vont prendre de l'argent pendant les 15 prochaines années pour stabiliser le cadre de la santé, pour que chaque Congolais, où qu'il soit, reçoive un minimum de soins de santé. Ce que nous avons comme budget dans le secteur de la santé ne peut pas prendre ce défi. Deuxième chose, nous avons près de 70% de notre population qui ne sait ni lire ni écrire correctement. Et donc, si nous désirons gérer ce pays correctement et le défendre correctement, nous avons besoin dans les 15 prochaines années de travailler intensément à la mise à niveau de notre ressource humaine et de notre expertise nationale. Et ça demande de l'argent qui n'est pas nécessairement rentable dans l'immédiat. Bien entendu, il faut faire des infrastructures. Nous sommes sur un territoire qui est 20 fois plus grand que celui de Brazzaville. Et donc nous avons besoin de beaucoup de moyens. Il est important qu'on se rende compte qu'on doit réinventer le cadre de gestion du pays. Et la question économique est fondamentale. Elle vient même avant la question politique.
Voilà, nous allons prendre notre deuxième sujet de la semaine qui nous amène à Ituri, Paul Matendo.
Oui François, les communautés locales du bloc Graben-Albertine accusent la compagnie pétrolière Oil of Congo de n'avoir réalisé aucune action sociale depuis 2010. Selon le président de leur comité, cette compagnie doit plus de 375 000 dollars américains pour financer les projets d'intérêt communautaire dans leur entité en territoire du Djougou. Dans une pétition adressée mercredi au ministre des Hydrocarbures, cette organisation dénonce l'opacité dans la gestion des contrats de partage de production avec le gouvernement de la RDC. Isaac Rémo nous en parle.
Le contrat de partage des productions CPP de 2010 qui lie le gouvernement et Oil of Congo prévoit en son article 5 que cette compagnie doit allouer 125 000 dollars chaque année par bloc au profit des populations locales. David Mambo, président du comité de concertation du bloc 1, rapporte que ces montants étaient destinés à la construction des structures sanitaires et des écoles dans 11 collectivités en territoire de Djougou et Mahagi. Mais il déplore la réhabilitation d'une seule école depuis 3 ans par cette société. Il s'agit de l'Institut Saint-Kizito de Djiba pour un coût total de 42 000 dollars. Pour les communautés locales, cette société n'est pas viable. Dans leur pétition adressée au ministre des hydrocarbures. Elle recommande le retrait des blocs 1 et son attribution à la compagnie Total, qui a proposé $1 million d'action sociale aux communautés riveraines des blocs 3. Contacter les responsables des Oil of Congo en Ituri a indiqué que son entreprise a déjà investi au-delà des montants prévus dans les contrats pour les actions sociales, soit plus de $2 million pour les blocs 1 et 2. Bounia Isakremoyope, Radio Kapi.
Situation similaire au Katanga. Ici, c'est l'entreprise Tenke Fungume Mining qui est accusée de ne pas respecter les accords conclus avec plus d'une centaine de familles de la cité Fungurume. C'est exactement 113 familles du village Mulumbu délocalisées en 2006 par l'entreprise Tenke Fungurume Mining qui ont déposé une lettre auprès de la société civile. Dans cette lettre, ces familles exigent le respect des accords signés entre les deux parties sans délai. Karine Topé nous en dit plus.
D'autres copies de cette lettre ont été transmises aux autorités locales et à l'un des élus du coin pour que justice soit faite. Ces familles qui vivent désormais à Kiloville, situées à 27 km de leur ancien village, réclament, comme convenu il y a 8 ans, entre autres, les frais d'indemnisation de délogement, les frais d'assistance pendant la période de transition de 13 mois après leur délocalisation, la prise en charge des personnes vulnérables parmi ces familles et l'octroi des documents, des titres de propriété des maisons que TFM leur a construits sur le nouveau site. La société civile de cette cité indique que ce dossier n'a pas encore connu un bon dénouement malgré les nombreuses réunions tenues entre elle, les représentants des familles délocalisées et l'entreprise concernée. Interrogé à ce sujet, le député Kabwika, élu de la circonscription électorale du Lualaba, a indiqué pour sa part avoir déjà transmis ce dossier au ministre des Mines pour remettre chacun dans ses droits. Il promet toutefois de poursuivre avec les négociations pour que l'entreprise TFM respecte les accords tels que conclus en 2006. Lubumbashi, Karine Topé, Radio Kapi.
Merci beaucoup Karine Topé. Voilà, nous allons nous retourner vers Alkitenge qui est notre invité. Vous avez suivi ces deux éléments et cette question de richesse naturelle qui ne profite pas du tout à des communautés locales revient toujours. En Ituri, c'est la communauté locale qui accuse la compagnie pétrolière Oil of Congo de n'avoir pas financé des projets communautaires à Djougou. Votre commentaire?
D'abord, la première manière de profiter à la République du Congo, c'est en créant des activités directes et indirectes. Je pense simplement que c'est des choses qui viennent et qui viennent progressivement. Par contre, c'est des questions de responsabilité sociale de ces entreprises, de pouvoir s'assurer que leur réputation est traînée dans les sphères de beauté et de prestige. C'est honteux qu'une grande société multimilliardaire, aujourd'hui, soit en train de se disputer sur des choses sur lesquelles elles se sont engagées et qu'elles n'ont pas réalisé en temps réel. J'estime en passant que ce n'est pas acceptable. Il est important que l'État congolais, les politiques congolais des milieux puissent être en mesure de s'impliquer positivement pour que ces choses soient faites. C'est une question de justice sociale. Mais également, c'est une question de responsabilité sociale de ces entreprises. Pour leur prestige, il est important que elle s'exécute. Mais encore une fois, il faut un arbitrage. Et c'est pour ça que je suis quand même content qu'aujourd'hui, nous constations que de plus en plus, la société civile se réveille, commence à réclamer, commence à parler. Et heureusement que nous avons de plus en plus les médias et la possibilité de pouvoir communiquer sur la place internationale et assumer leur grande honte.
Et qu'est-ce qui fait que les clauses de tous ces contrats ne soient pas respectées par les deux parties? Parce que chaque fois, ce sont les communautés locales qui se plaignent, la société civile...
Il y a un surveillant là-dessus, c'est l'État. Et si l'État est complaisant et si les entreprises estiment que celui qui est censé les contraindre est un peu complaisant, bien entendu, les entreprises essaient de gagner du temps. Mais je ne crois même pas qu'en réalité, on devrait simplement compter sur l'État. On devrait surtout compter sur la vigilance de la société civile. Plus elle devient agressive dans la réclamation de ses droits, plus elle se fait respecter.
Mais vous avez appris récemment avec la loi sur les hydrocarbures traitée à l'Assemblée. On a semblé dénoncer le fait que ça profite aux investisseurs. Vous ne pensez pas que ça occasionne des genres de comportements de certaines compagnies qui ne pensent pas régler ou permettre à la population de profiter de richesses naturelles?
Ça devra profiter aux investisseurs. C'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Ça devra profiter à l'État congolais. L'État congolais devrait avoir des mécanismes pour redistribuer. Et si dans les conventions, et c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la convention sociale qui accompagne la convention d'investissement, il est prévu un certain nombre d'actes qui doivent être posées en faveur de la communauté locale, ça doit être respecté. C'est la loi. Et celui qui est censé faire respecter la loi, c'est l'État congolais. Il est important que l'État congolais, d'abord, évite le conflit d'intérêts, et ça c'est des questions de principe sur certaines personnes, mais également qu'il soit strict et sérieux, qu'il se fasse respecter en protégeant ses propres populations.
Et vous ne pensez pas qu'il y a moyen de revoir certains contrats que les grandes compagnies qui travaillent dans les mines, dans le pétrole, négocient avec la population locale par l'entremise du gouvernement? Parce que maintenant là, ça inquiète, c'est chaque fois des plaintes.
Non, je crois qu'il y a une loi, il faut simplement respecter la loi. Si la loi prévoit un certain nombre d'actions qui doivent être menées et qu'elles sont convenues et qu'elles sont mises dans un contrat, c'est ça qu'il faut respecter. Cette question de réévaluer tout le temps et de modifier tout le temps les lois ou les conventions, ce n'est pas crédible. Je pense simplement qu'au moment de la négociation, il est important que les parties prenantes soient autour de la table et qu'à partir du moment où on est d'accord sur ce qu'il y a à faire, que tout le monde le fasse et que le gouvernement s'assure que tout le monde a fait sa part.
Voilà, je rappelle que nous sommes dans Panorama économique et la présentation est signée Paul Matendo et François Kadima, et comme invité Al Kitenge, qui est stratège. Nous commentons avec lui l'actualité économique de la semaine. Alors, nous allons continuer, prendre une autre actualité de la semaine, Paul Matendo.
Au Kasaï occidental, les travaux de construction de la route Kananga-Kalabambouji dans le territoire de Luisa sont lancés. Exécutés sur financement total de l'entreprise chinoise Grec 7, ces travaux s'étendront, selon le directeur général de cette entreprise, sur plus ou moins 15 mois pour un coût total de 25 millions de dollars américains. D'après le gouverneur du Kasaï occidental, cette route permettra les transactions commerciales entre les provinces de Lunda Norte de la République d'Angola et celles du Kasaï occidental. André Kambala.
D'après le gouverneur du Kasaï occidental, cette route permettra les transactions commerciales entre les provinces de Lunda Nord de la République d'Angola et du Kasaï occidental. Alexis Kande Mopompa indique que la construction de cette route, qui appartient sans distinction à tous les ouest kasaïens, contribuera sans nul doute à l'animation économique des contrées traversées. Il a ajouté que la route constituera un raccourci appréciable lorsque l'on sait que cette même distance est par Kananga de Luisa et qu'à partir de cette cité, il faut encore parcourir environ 110 km pour arriver à Kalambambouji. Le gouverneur Kande a en outre précisé qu'un embranchement connectera cette cité de Luisa à la nouvelle route. Il convient de signaler qu'un autre avantage non négligeable consiste à avoir deux routes, la seconde pouvant servir de rechange comme dans la situation actuelle où le pont de l'État est endommagé avec toutes les conséquences perceptibles sur le plan sécuritaire.
Une route pour booster les activités économiques entre le Kasaï et la province de Lunda Nord. Vous avez un commentaire?
Oui, ce genre de choses me font toujours mal au cœur quand je les observe. Vous savez, on ne définit pas la priorité d'une route le jour où il faut la faire. Une route appartient à ce qu'on appelle un plan national d'aménagement du territoire, et nous n'en avons pas un, et c'est dramatique. C'est dramatique, nous n'ayons pas un plan national d'aménagement du territoire. Même la ville de Kinshasa n'a pas son plan national, le plan provincial d'aménagement du territoire. Il est important qu'on se rende compte que tant qu'on ne planifie pas les choses, elles vont arriver de manière frustrante. Là, par exemple, nous sommes dans une route qui externalise notre économie. Je pense qu'il faut faire un effort pour intégrer l'économie nationale. Le Congo a besoin d'une grande économie nationale. C'est bien de se connecter à la région, mais c'est beaucoup mieux de se connecter au pays. Aujourd'hui, un pays comme le nôtre, par l'Est, il est connecté au Rwanda et au Burundi, et les gens qui vivent en périphérie sont plus connectés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il est important que notre pays, et je le disais tout à l'heure, lorsque nous parlions du budget, se dote des moyens nécessaire pour se doter d'infrastructures économiques intégratrices. Il est important que ce pays communique avec lui-même. C'est une des conditions pour créer une nation. Sinon, nous allons avoir des gens qui sont en externalité économique avec les autres pays, et ça nous donne une espèce de déflagration de l'économie nationale.
Il y a certains pays voisins qui présentent des intérêts économiques pour nous. Vous ne pensez pas que c'est aussi favorable que l'on permette une coopération, soit avec la réhabilitation de routes de ce genre?
Je suis pour l'intégration régionale et l'intégration à la mondialisation, mais je pense simplement qu'avant de s'intégrer aux autres, il faut exister. Pour que l'économie congolaise existe, il faudrait que nous nous dotions des routes qui intègrent l'économie et qui assurent l'interdépendance des provinces. Il est important que chaque fois que qu'on pense à créer des emplois et à payer des taxes, qu'on les paye d'abord chez nous et qu'on les crée d'abord chez nous. Et ça, ça ne peut être viable que dans le cadre d'un plan global de vision d'une économie intégrée. C'est pour ça que nous avons dans notre pays, par exemple, le ciment qui coûte 15 dollars à Kinshasa, 25 dollars en Bujimaï, 80 dollars à Chabunda. Ça pose des questions fondamentales. Et il n'est pas toujours bon que pour nourrir les gens qui sont au Katanga, on se tourne sur la Zambie qui a un territoire près de la moitié du nôtre. C'est des choses qui montrent clairement que nous devons réfléchir sur l'efficacité de notre économie avant réellement de pouvoir nous intégrer sur les autres. Nous sommes signataires de plusieurs conventions, par exemple de circulation libre des marchandises dans la région. Pourquoi nous n'avons toujours pas mis ça en application? Simplement parce que vous vous rendez bien compte, lorsque vous regardez dans notre budget, près de 50% de nos revenus viennent de la douane. Le jour où nous allons arrêter cela, ce pays va tomber en faillite. Il est donc important qu'on se rende compte qu'il est capital d'avoir une intégration économique et les infrastructures intérieures soient importantes. Je salue cette route qui nous relie à l'Angola. Je salue le chemin de fer vers l'Angola également de par la partie sud de notre pays. Mais il est important qu'on ait des routes qui intègrent le pays. Tous les pays du monde ont une économie extrêmement intégrée. Je donne des exemples simples. Le petit Burundi qui n'est pas bien connu de chez nous. C'est un pays où jusque dans les villages, vous avez des routes qui vous y acheminent. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous produisez dans les parties les plus intérieures du pays, vous pouvez exporter votre produit dans les grandes villes et même les acheminer à l'extérieur. Ça veut dire qu'en fait, un pays doit pouvoir donner une chance égale à chacun des citoyens où qu'il soit.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Voilà quelques nouvelles de la semaine en bref. Province orientale, près de 90% des exploitants forestiers artisanaux illégaux ont été répertoriés par le ministère provincial des ressources naturelles. Selon ce dernier, ces exploitants forestiers détiennent des documents, notamment le permis de coupe et titre d'agrément délivré par des personnes non qualifiées. Cette situation, favorisée par le désordre qui a régné dans ce secteur, n'a pas seulement occasionné les détournements de fonds dus au trésor public, mais aussi la destruction de l'environnement, notamment suite au non-respect du code forestier par ces exploitants illégaux. Paulin Odiane, ministre provincial des ressources naturelles, accorde un délai d'un mois à ces exploitants artisanaux pour reconstituer leur dossier et ainsi être en ordre avec le gouvernement provincial.
Au sud Kivu, les propriétaires des véhicules d'Uvira se plaignent de la rupture des stocks de plaques d'immatriculation des véhicules à la Direction générale des impôts. Cela fera bientôt 3 mois que la DGI Uvira délivre des documents provisoires à la place des plaques minéralogiques. D'après le président des agences de voyage à Uvira, ce document n'élargit pas la circulation des véhicules en dehors des frontières congolaises, notamment vers le Rwanda et le Burundi voisin.
Parlons à présent de la délégation du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui séjourne depuis quelques jours à Kinshasa. C'est pour préparer la 18e réunion statutaire annuelle de cette commission. Une réunion qui se tiendra ici à Kinshasa du 17 au 20 février avec comme thème les champions nationaux, les investissements directs et étrangers et leur rôle dans la transformation structurelle en Afrique de l'Est.
Au Nord Kivu, une rareté de poissons frais est observée depuis une semaine sur les marchés des Kirumba et Kaina. C'est au sud du territoire du Lubero. Cette situation est au fait l'une des conséquences des patrouilles mixtes menées par la société civile, les autorités locales et la force navale. L'objectif, selon les chefs des cités de Kirumba, est de lutter contre la pêche illicite sur les lacs Édouard. Du coup, les prix du poisson frais a haussé sur le marché.
Terminons par une OPS, donc le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet qui offre Son expertise aux petites et moyennes entreprises congolaises, PME de construction. Une délégation de cet organisme est en mission en RDC. Elle est venue travailler directement avec le chef des projets, ingénieur de l'UNOPS, congolais international, travaillant dans le coin le plus reculé avec les PME congolaises de construction. Objectif, développer durablement les compétences de ces PME en vue de renforcer leurs prestations, augmenter leur professionnalisme dans la gestion de leurs contrats futurs. Voilà un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité à Kitenge.
Le dernier point, en rapport avec le renforcement de capacité des PME congolaises, il faut vous dire qu'on acquiert de l'expérience en travaillant. Les 30 dernières années, ce pays n'a pas travaillé, on n'a pas fait de route, on n'a pas fait de grandes constructions. C'est à peine maintenant que nous avons les premiers grands bâtiments en train d'être construits dans la ville. C'est comme ça que les gens se font la main. Il est important que le pays se dote d'une politique de renforcement de capacité en mettant en joint team avec les gens qui viennent travailler chez nous. Et deuxième chose, peut-être les plaques d'immatriculation. C'est une honte ça, parce que très malheureusement, ce qu'on dit à Ouvira se passe à Kinshasa. Pour avoir une plaque d'immatriculation à Kinshasa, il faut compter 15 jours et il faut corrompre pour l'avoir. C'est malheureux, mais c'est ça la vérité. Mais je crois simplement que les actes logiques normaux de l'État commencent à poser problème. Lorsque vous regardez les plaques d'immatriculation, c'est un service concédé. Ça veut dire que l'État donne les plaques d'immatriculation de par un partenaire privé avec lequel il travaille. Quel est le problème? Il faut le poser. Il faut qu'on regarde. Est-ce un problème de gestion de stock? Est-ce un problème d'approvisionnement? Quel est le problème? Et je crois simplement que l'État doit être en mesure de se professionnaliser. Il est important qu'il se dote des critères de gestion de qualité des services rendus aux citoyens.
Vous parlez de PME. C'est quoi la valeur de la PME chez nous? Est-ce que les PME peuvent réellement contribuer à l'économie congolaise?
Dans le monde entier, 90% de l'économie est tenue par les PME, les petites et moyennes entreprises, pas par les grandes entreprises. Et c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la France, c'est le cas du Brésil, c'est le cas de tous les pays qui ont marché, y compris la Chine. Si nous n'avons pas les petites et moyennes entreprises qui se spécialisent dans les différents secteurs, qui se professionnalisent et qui ont accès aux capitaux et aux marchés publics, il sera très difficile d'évoluer. Dans tous les pays du monde, la dynamique de l'économie est tenue par les petites et moyennes entreprises.
Et pour la RDC?
Malheureusement, chez nous, toute l'économie est dans l'informel, pour plusieurs raisons. Et il est important que l'État se dote d'une task force qui décide simplement de convertir les activités qui se passent dans l'informel dans le formel. Aujourd'hui, je vous ai entendu tout à l'heure faire passer un document sur des gens qui se plaignent du coulage. Mais le coulage est lié au simple fait que beaucoup d'acteurs sont dans l'informel. Il est important qu'on se rende compte que, avant que Vodacom ne vienne ici avec RTL et autres, il y avait de l'argent qui circulait mais qu'on ne percevait pas. Dès qu'on a des entités organisées, ça devient facile d'identifier le contribuable et de saisir l'activité. Je donne un exemple élémentaire. La circulation dans cette ville, les transports urbains de la ville de Kinshasa, c'est plusieurs millions de personnes et plusieurs millions de dollars. Combien d'argent nous percevons dessus? Zéro. Pourquoi? Parce que toute l'activité est dans l'informel. Il est important qu'on se structure. À partir du moment où on se structure, non seulement on peut évoluer individuellement, mais on peut évoluer collectivement.
Voilà, nous rappelons que ce panorama économique, nous allons nous quitter. Alors, Al Kitenge, un commentaire à faire sur toute l'actualité abordée avec vous ce week-end.
Nous sommes un pays villageois, très malheureusement. Il est important qu'on se rende compte que si nous désirons aller loin, on doit penser grand et rester digital. La modernité que l'on prône, on doit la vivre au quotidien. Et le premier qui doit vraiment se moderniser et s'équiper en technologie, c'est l'État congolais. À partir du moment où il pourra s'équiper, il pourra être possible d'avoir une grande vision de l'économie congolaise et lui donner la dimension et la qualité nécessaires.
C'est fini pour ce samedi. Panorama économique, on va se quitter là. Nous avions comme invité Al Kitenge. Avec lui, nous avons commenté l'actualité économique de la semaine. Au micro, c'était Paul Matendo et François Kadima. Paul Matendo qui revient de ses vacances. Paul, on va bien commencer la semaine.
Tout à fait, François. On commence très bien la semaine. Déjà à partir de la semaine prochaine.
Voilà, le rendez-vous est pris pour lundi à 18h15 pour Écho d'économie. Cette émission a été coordonnée par Nicole Ngaka sous les techniques de Paul Badianyama. Merci et à très bientôt.